Je suis en ligne avec quelqu'un que j'aime beaucoup. J'espère qu'il est là. Monsieur, je dis monsieur, Didier Barbelivien.
Oui, ne m'appelle pas monsieur parce que j'ai l'impression d'avoir 112 ans.
Comment vas-tu, Didier Barbelivien ?
Ben, tout va bien. Et quand j'entends un musicorama des Rolling Stones, tu me replonges dans la bulle de mon enfance et de mon adolescence. Et j'adore ça.
Tu écoutais Europe. D'abord, bonne année, Didier.
Ouais, ben, bonne année à vous tous, parce qu'on est encore le 1er janvier et les vœux sont, comme les œufs, sont tout frais.
Et je crois que ça fait plaisir à beaucoup d'auditrices et d'auditeurs que tu nous passes ce coup de fil. Et je voulais savoir, quels sont tes souvenirs d'Europe 1, toi ? C'est une station que tu écoutais beaucoup quand tu étais ado ?
Ah ben, c'est pas que j'écoutais beaucoup, c'est... J'écoutais que ça, je rentrais de l'école, j'avais 10 ans, j'écoutais SLC, Philippe Aki, Salut les copains. C'est bizarre parce que j'ai toujours considéré, c'est fou parce que de l'enfance à presque a été ma vie, ma carrière, j'ai toujours considéré qu'Europe 1 était ma maison. Je sais pas, je me suis toujours senti, quand j'étais gosse, je me disais ben, un jour je serai ici, je serai avec eux, tous ceux que j'entends à la radio, là, c'est ma famille.
Là, je suis dans le studio Coluche, que tu connais très bien.
Ben oui, parce que j'y travaille.
Je sais. Je suis avec Mathilde et Nicolas. Mathilde, Nicolas, vous voulez poser des questions à Didier ?
Bonsoir.
Bonsoir, Mathilde.
Bonsoir, Didier.
Nicolas, Mathilde sont avec moi. Ils étaient très contents que tu nous appelles. Alors, j'ai demandé à Mathilde si elle a une question à te poser.
Oui, je voulais vous demander, parmi tous les artistes pour qui vous avez composé des chansons, lequel vous a peut-être le plus marqué ou avec qui vous avez préféré travailler ?
Je vais vous surprendre, celui qui m'a sûrement le plus marqué, c'est Julio Iglesias.
Ah !
Elle est assez surprise, effectivement.
D'accord.
Oui, oui, oui. Bah oui, je me doute que ça la surprend parce que il y a un tel décalage entre l'homme public et l'homme privé que ça m'a fasciné quand je l'ai connu, ce monsieur.
Mais dans un bon sens ?
Bah ouais, dans un bon sens, parce que c'est un homme qui vit d'une manière tellement simple. Aujourd'hui, bon, il a mis fin à sa carrière, mais ça a été une telle star internationale et un type tellement simple et humain dans la vie que c'en était, c'était un décalage terrible pour moi qui ai vécu avec lui aux États-Unis. Et je me disais, bon Dieu, je suis avec une pop star internationale qui vit en patogas et en t-shirt tout le reste du temps. C'est-à-dire, Julio Iglesias, dans sa vie quotidienne, il était pratiquement méconnaissable.
D'ailleurs, on va écouter un tout petit extrait, là, tout petit.
Vous les femmes, vous les charmes, vos sourires nous attirent, nous des âmes, vous les anges.
C'est vrai que cette réponse de Didier m'étonne un peu, Nicolas, quand même.
Oui,
bah oui, parce que quand tu l'entends, c'est un charmeur, c'est un crooner, c'est un type que tu vois en smoking sur les télés, que je sais pas, il y a une image de glamour et tout ça, et il vit en short, en t-shirt, en patagas à Punta Cana.
Incroyable.
Et tu le distinguerais pas de la population si tu fais pas attention.
Et c'est difficile de composer pour un crooner ou pas ?
Non, parce que enfin c'est pas plus difficile. Non, c'est plutôt agréable parce que c'est il y a des racines espagnoles donc européennes très proches de la musique française comme la musique italienne et c'est souvent basé sur musique sentimentale, de charme, quoi.
Et chez les femmes, quelle est celle avec qui tu as préféré travailler ou composer, pour laquelle tu as préféré composer ?
Peut-être... attendez les gars, là, vous me prenez.
Ah bah oui, mais c'est ça le but, de te prendre dégoûté.
Tellement de femmes, moi, j'ai aimé Dalida. J'aime toujours Sylvie Vartan, parce que, tu vois, ce sont des femmes d'origines étrangères.
On lui souhaite une bonne année, Sylvie, d'ailleurs.
Ouais, une très bonne année, bien sûr. Et parce que ce sont peut-être des femmes qui, quand j'étais gamin, un jour j'ai dit à Dalida, j'ai dit, tu sais, moi j'ai écouté Bambino jusqu'à rayer le disque.
Ah oui.
Et je faisais la même chose avec Sylvie Vartan sur La plus belle pour aller danser. Mais
ah oui, c'est à ce point-là.
Je ne sais pas pourquoi j'étais attiré, quand t'es gamin, tu ne sais pas toute leur histoire.
D'abord, elles étaient très belles déjà.
Elles étaient très belles et elles venaient d'ailleurs.
Nicolas, tu as une question à poser?
Oui,
à...
Didier, vous avez sorti un album le 21 octobre dernier.
Très bel album, d'ailleurs, je l'ai, il me l'a offert, Didier.
Est-ce que ça sera le dernier?
Ah oui, oui, ce sera le dernier, oui.
Pourquoi?
Absolument.
Pourquoi?
Parce que, bizarrement, je ne supporte plus d'être en studio.
Quoi?
J'aime être sur scène avec le public. Franchement, c'est des vacances pour moi d'aller chanter sur scène. Pour d'autres, c'est peut-être un combat, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Moi, c'est un plaisir absolu. Et je n'aime plus du tout, mais plus du tout, hein. J'ai une aversion pour le studio d'enregistrement. Alors j'ai dit à mes musiciens, j'ai dit j'y arrive plus, c'est le dernier. Me mettre un casque sur la tête dans cette extrême solitude qui est une cabine de studio d'enregistrement, traquer les pistes des instruments devant un ordinateur, ça je l'ai fait pendant 50 ans presque, je ne supporte plus de faire ça.
Et Didier, vous aimeriez écrire pour...
Ni pour moi, ni pour d'autres. Hein. Ah. Je vais écrire pour d'autres.
Et vous aimeriez écrire pour qui, Didier? Aujourd'hui, l'artiste qui vous inspire le plus?
Moi, je ne suis pas forcément inspiré par quelqu'un en particulier. Moi, je suis un type qui écrit des chansons parce que j'aime écrire des chansons depuis que j'ai 16-17 ans. Donc, ce n'est pas une question que je me pose. J'écris des chansons tout simplement. Voilà. Qui vont à des artistes, qui vont à d'autres, qui ne vont pas à certains, certaines.
Mais tu vas continuer à composer, Didier, tel que je te connais.
Ah bah oui, non seulement
tous les matins, tu te lèves pour ça.
Ah ben, la nuit dernière encore, j'écrivais une chanson pour Julien Clerc.
En 2022, c'est fascinant. Hein. C'est-à-dire qu'il fait en 2022 à virgule près ce qu'il faisait le 1er janvier 1974. Quoi. C'est ça qui est fascinant.
Non, je peux pas m'empêcher parce que je sais pas comment... est-ce que les boulangers s'empêchent un jour de faire du pain? Non, ils aiment ça, ou des croissants, ils aiment ça toute leur vie. Moi, j'aime écrire des chansons, c'est mon... Ça fait partie de moi, je ne vois pas que...
Mais pourquoi
que faire d'autre.
Mais pourquoi? Pourquoi
bah,
des chansons?
Je ne sais pas pourquoi, Yann, je sais
mais
pas.
Tu pourrais écrire des scénarios, des romans...
Bah,
des...
Oui, mais j'en écris, j'ai fini d'écrire un roman qui va peut-être paraître dans l'année. Non, mais je, bien sûr...
Ce sera un roman autobiographique?
Ah non, non, pas du tout, non, non, non. Non, non, un roman d'imagination.
On peut savoir de quoi ça va parler ou c'est encore secret?
Eh, malheureux, ça va encore être une histoire d'amour, mais une histoire d'amour tellement cinglée que, heureusement, je préviens le lecteur. À l'entête du livre, je dis « Tout est faux hein, là-dedans. Rien n'est vrai. Tout est né de mon imagination. N'y cherchez pas un quelconque rapport avec ma vie, avec la vie de quelqu'un d'autre. Non, non. C'est une création totale. Mais je sais pas parce que... Des formations d'esprit. Moi, j'ai été rêveur depuis, j'allais dire rêveur forever, depuis que j'ai 14 ans et que j'ai continué. Enfin, je sais pas comment être autrement.
Et Julien, voilà. Julien Clerc, il est toujours au taquet, lui, en 2022 aussi?
Bah, il est à fond. Je l'ai vu à l'Olympia, là, il y a 3 semaines, même pas, 15 jours, au mois de décembre. Ouais, il est à fond. Lui,
il était à l'Olympia le jour de ma naissance. J'admire ça. Ils sont fascinants.
Bah,
vous êtes fascinants. Non, mais vous êtes fascinants, les gars.
C'est un garçon qui chante ses chansons de ses débuts en 68 dans la même tonalité, les tonalités d'origine, tu vois. Moi, j'en reviens pas. Quand j'entends Julien chanter la Californie, je dis, mais. Ou la cavalerie, j'ai dit, mais t'es cinglé. J'ai dit, baisse-la d'un ton ou d'un demi-ton. Et non, il la chante comme il l'a créée. Toutes ses chansons, dernier tour de chant, c'était dans les tonalités de la création. C'est assez fascinant.
Oui,
c'est
parce qu'on a l'impression, là, tout à l'heure, on a écouté les Stones, groupe qu'on peut encore aller voir en concert l'année prochaine. En 1965,
ouais,
mais on a l'impression que le temps... Oui, mais lui, il est mort. Mais on a l'impression... D'ailleurs, j'ai demandé à Benoît qu'il nous fasse un cadeau. Californie, le début de la Californie, Didier.
La Californie se dort près.
Ça fonctionne
de la mer,
toujours, ça.
Et ne connaît pas l'été de la mer. La Californie est une frontière entre mer et terre, le désert et la vie. La Californie.
C'est vrai que c'est imparable, hein, ça, Didier. Hein.
Ouais, puisque enfin, je te disais, ce qui est surprenant, c'est qu'il les chante dans la même tête. Il se fait aucun cadeau, le mec, il y va à fond.
J'ai deux amis qui viennent de rentrer dans le studio, là, Fred Assayag et sa compagne Davina, je les accueille.
Bonjour.
Tu dois connaître Didier, Frédéric Assayag, il travaillait avec Catherine Barma, il travaille toujours, il était là avec moi, on n'est pas couché.
Bien sûr.
Voilà. Bonjour Didier.
Il est avec sa compagne Fred. Davina et on est tous heureux de te parler. Là,
très
on
heureux,
est très contents très de t'avoir en ligne. C'est un beau cadeau que tu nous fais pour le nouvel an.
Très beau cadeau. Démarrer l'année avec toi, c'est très agréable.
Mais les gens t'aiment, mon vieux, les gens t'aiment. Je veux dire, t'as changé.
Ouais, mais moi, vous savez, moi, je prends pas ça pour un cadeau. C'est un truc, pour moi, naturel de parler avec vous et de...
Non, mais Didier, tu prends quelqu'un au hasard en France dans la rue. Tu prends quelqu'un au hasard en France. Tu lui demandes quelle est sa chanson préférée. La probabilité que ça tombe sur une chanson, qu'ils le sachent ou non, les gens, hein, peu importe, mais la probabilité que ça tombe sur une chanson que tu as composée est quand même de 50%. Ça donne le vertige.
Non, ouais, enfin, c'est forcément, j'ai écrit des chansons pendant 50 ans, t'imagines, et je continue, mais... C'est notre légion d'honneur, nous, d'être reconnus par le public dans la rue, d'être appréciés, acceptés.
Mathilde, vous avez une question pour Didier ?
Oui, je me permets de vous interrompre. Quelle est la plus belle récompense de votre carrière ? Une récompense, ça peut être plein de choses. Hein,
pas forcément honorifique.
Exactement.
C'est ce que j'étais en train de vous dire. Moi, c'est le public dans la rue, dans les magasins. Bonjour Monsieur Barbivien, vous nous avez fait tellement rêver, on s'est aimé sur vos chansons, on s'est rencontrés, on a dansé là-dessus.
Tu vis dans un état qui est un mélange d'onanisme et d'état totalitaire. C'est-à-dire que dès que tu prends le taxi ou tu rentres dans un hôtel, t'entends une de tes chansons. Ça va être l'enfer au bout d'un moment.
Non, franchement, c'est plutôt un plaisir qu'un enfer. Mais
c'est pour ça que j'ai un mélange d'onanisme et de totalitarisme. Qu'on peut appeler ça le totalitarisme ou onanisme, le totalitarisme, onanisme. Non mais tu vois ce que je veux dire ? Parce que en fait, quand tu arrives dans un lieu public, souvent c'est tes compositions que t'entends.
Ça arrive, oui, souvent. Mais tu sais ce qui me fait le plus plaisir ? L'autre jour, j'avais mis ma voiture au garage. J'arrive à la réception, le réceptionniste me reconnaît et je vois trois jeunes garçons qui visiblement me calculent pas. Et la réceptionniste me dit oh, « Monsieur Barbivien, j'ai honte, qu'ils savent pas. Mais je dis non, c'est merveilleux, c'est encore un public à conquérir. » Je dis « S'ils ne me connaissent pas, c'est que tout est à faire. »
Davina, tu as une question à poser à Didier Barbivien ?
Bonsoir Didier. Mais écoutez, moi j'aurais bien voulu savoir qu'est-ce qui vous fait rêver là pour cette année ?
Qu'est-ce qui me fait rêver pour cette année ?
Qu'est-ce qui vous fait vibrer ?
Vibrer, ouais. D'être toujours l'imbécile que je suis, c'est-à-dire de croire toujours que demain sera meilleur qu'hier, que mes chansons seront plus belles que celles d'avant, que je souhaite que notre monde s'arrange, devienne plus sage, plus... J'ai l'air de dire des banalités.
Non mais Didier, toi qui fais de la radio et dans le même studio que moi, une émission d'ailleurs qui cartonne, tu sais qu'il y a un moment toujours un peu désagréable, c'est quand on a un invité qu'on aime et qu'on est obligé de lui annoncer qu'il y a une coupure pub. C'est pourtant ce que je vais faire comme un gros salaud.
Sur Europe 1, vous aussi, venez vous confier à Yann Moix en appelant le 3921. 50 centimes la minute.
Vous êtes toujours sur la Libre Antenne et nous avons la chance d'avoir ce soir en ligne en direct sur Europe 1 Didier Barbelivien qui nous fait ce cadeau. Je suis avec Mathilde, Nicolas, Benoît, Davina et
tu
Fred.
Tu m'as fait rire avec ta coupure pub.
Mais oui,
tu m'as
mais...
fait rire. Je ne la connais pas moi. Tu me dis mais Didier, la coupure pub, moi mes émissions sont enregistrées.
Il ne fallait pas le dire ça que c'est enregistré. Il ne faut pas le dire.
Mais si, il faut le dire. Mais si, il faut toujours dire la vérité au public. Moi, j'ai jamais menti par rapport à ça.
Moi, je préfère le direct. C'est vrai que moi, je préfère le direct.
Elles sont enregistrées dans les conditions du direct.
Oui, mais les conditions du direct, ça veut rien dire, les conditions du direct.
Si, elles sont en direct. Elles sont pratiquement jamais montées. Et
le fait que tu sois vivant au moment où tu enregistres, ça veut dire que c'est les conditions directes. Tu vois, enfin, j'ai jamais compris cette expression. dans les conditions du direct. Que... Mais tout ce qu'on fait dans la vie, c'est dans les conditions du direct. Un film de 1930 a été fait dans les conditions du vivant d'un mec qui vivait à l'époque.
Yann, il y a deux façons d'enregistrer les émissions. Il y a les émissions qui sont montées, coupées, nanana, ouais, et ça s'entend vachement.
Mais je te taquine.
Il y a les émissions, tu le sais, puisque tu es venu la faire, tu as vu qu'il n'y a pas de...
Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de triche. Il n'y a pas de triche.
Il n'y a pas de triche.
Enfin, Yann, si tu peux me permettre, on a pas mal travaillé ensemble. Souvent, les émissions étaient enregistrées. Avec le recul, c'était pas plus mal, non?
disons que ça m'a permis de faire trois saisons. Mais oui, mais en même temps, le direct, il se passe quelque chose. On travaille sans filet, Didier.
Mais quand tu as fait l'émission, est-ce que tu as eu le sentiment qu'il y avait un filet?
Non, ton émission, elle est... Non, je peux...
Quand tu t'es dit à un moment, je ne peux pas dire ça, je ne vais pas dire ça, ça va être coupé au montage. Non, coupé absolument.
Si j'avais dit une horreur, elle aurait été coupée au montage. Si par exemple, j'avais dit PIP, ça aurait été coupé, ça.
C'est pas certain. Pourquoi?
Qui a une question à poser à Didier?
Non, moi, j'ai pas de question. Juste, je dis que depuis 1982 et elle, on n'a pas fait mieux. J'avais 7 ans,
merci.
Et cette chanson m'a accompagné très longtemps.
Bah, tu sais que moi, ma chanson française préférée de tous les temps, et Didier le sait, c'est Elle m'oublie.
Ah non, mais
c'est... Benoît, on l'a, Elle m'oublie ou pas? Je vais demander à Benoît de la chercher parce que j'aimerais vraiment que les auditeurs et les auditrices, pour le 1er janvier quand même...
Quel cadeau.
Et après, on choisira chacun une chanson de Didier, et puis on essaiera de voir si on peut la passer. Ah, tu as... Il a elle, c'est très bien.
Ah, magnifique.
Elle, c'est très bien.
C'est facile à retrouver celle-là.
Didier Barbelivien, elle, effectivement, en 1982. C'est vrai que c'est une très belle chanson, Mathilde, non?
J'aime beaucoup.
Vous avez quelque chose à dire? Pardon, Didier.
Non, juste que vous félicitez pour un truc. Je fais la même chose dans l'émission « Dis-moi ce que tu chantes ». Vous passez les chansons en entier. Ça n'existe plus en radio.
Je vais te dire quelque chose, Didier. Quand on a, en plus, le compositeur... D'abord, moi, je passe toujours les chansons dans leur intégralité, même quand elles durent 9 minutes. Tout à l'heure, on va finir avec un musicorama de Duke Ellington, peut-être, et on va le passer dans ces 9 minutes. Mais en plus, quand tu as le compositeur de la chanson, c'est un peu violent quand même de lui couper la chic. Moi, je trouve ça d'une violence extrême.
Je partage cet avis. Tu sais, moi, j'ai programmé le dernier des Villacois, qui est une chanson de Christophe,
qui fait
un petit peu plus de 9 minutes. Et quand mon réalisateur Rémi a vu ça, il m'a dit, Didier, on ne peut pas faire 9 minutes. J'ai dit, si, bien sûr qu'on peut. Bien sûr.
On le salue, Rémi, d'ailleurs, il est passé nous voir hier, on a fait 8 heures d'antenne. Mathilde, je vous donne la parole.
Cette passion d'écrire des chansons, de chanter, elle vous est venue très très jeune, et par quel moyen?
Par la force de mon ennui à l'école. C'est-à-dire, je regardais toujours par la fenêtre, j'essayais toujours de m'évader, tout en restant bien assis à ma place. Je me disais, bon, faut que je me sorte de là, c'est pas possible. Je peux pas vivre cette vie comme ça, enfermée dans des murs, à apprendre la guerre des mystères, tout ce qu'on voulait me transmettre, et qui était bien sûr, qui était intéressant. Je m'en suis rendu compte plus tard, mais j'étais d'un naturel à la fois rêveur et, un peu sauvage, quoi. Toujours en train d'essayer de m'enfuir.
Moi, j'ai une question à te poser. Là, on a beaucoup de gens qui nous appellent, Libre Antenne, des gens souvent qui ne vont pas bien. Et on essaye de soulager leur douleur, en tout cas pendant le moment où on leur parle, ce qui n'est pas toujours simple. Et ils attendent beaucoup aussi de cette émission pour ça. Mais la question que je vais te poser, c'est que moi, j'écris des romans. Je fais aussi des films. Mais ce n'est pas la même chose parce que je sais qu'il y a des gens qui, en écoutant une chanson, une petite chanson de 3 minutes... je dis petite, c'est pas péjoratif, c'est par rapport à la durée, bien sûr. Ces 3 minutes-là leur procurent un bonheur, mais infini. Ça les plonge dans des bons souvenirs, ça les rassénère, ça les régénère. C'est quand même magique, une chanson.
Mais tu sais, moi, j'ai le même sentiment que les gens qui nous écoutent. C'est-à-dire, moi, quand je suis dans ma voiture ou à la maison, des fois, j'ai l'envie d'écouter des chansons pour me remettre dans une époque, dans un climat qui me fait du bien. Je n'ai rien de différent des auditeurs qui nous écoutent en ce moment. C'est-à-dire, moi, il y a des chansons qui me transportent toujours de la même façon.
Est-ce qu'il y a une chanson française en particulier qui te transporte?
il y en a plein. Les Moulins de mon cœur que je chante sur scène, Hier encore de Charles Aznavour, des chansons de François Hardy. Tu vois, Ma jeunesse fout le temps, par exemple.
T'as pas composé pour François Hardy d'ailleurs?
Non, jamais, mais ça m'empêche pas de l'aimer.
Mais non, bien sûr, non, mais c'est une question. Hein. Et
non,
pour Jacques Dutronc, me semble-t-il, pas non plus?
Non, mais c'est pareil. C'est déjà, quand j'entends l'opportunisme.
Non, mais je sais,
Dutronc,
non, mais c'était des questions comme
je
ça.
Je me souviens que. Écoute, j'ai jamais composé pour Polnareff, c'est pareil, quand j'entends le bal du jazz, ça m'énerve.
Est-ce que tu peux raconter aux éditeurs, parce que moi ça m'a fait mourir de rire, l'anecdote, la manière dont vous avez composé L'été sera chaud d'Éric Chardin, qu'on écoutera tout à l'heure? Tu peux nous raconter, j'adore cette histoire.
Bah, on est Guy Matteoni, Chardin et moi dans la maison d'Éric.
En 79.
En 79. Et on cherche une idée pour la chanson de l'été. Et en général, dans ces années-là, c'était un slow, tu vois. On cherchait un truc avec une plage, avec... Et alors moi, je lance un truc, je dis, bon, bah, sous les pavés, la plage. Tu sais, les slogans de 68. Et Chardin me regarde et me dit, sous les pavés, la plage. Je sens pas. Il est interdit d'interdire, je lui dis. Ouais, mais Didier, on va faire... Bon, je dis, vous êtes chiant, bon. Et l'été sera chaud, c'était, il y avait des bombages sur les murs, l'été sera chaud, comme milliardaires de tous les pays, unissez-vous, il n'y en a plus pour longtemps. Et Chardin me dit, l'été sera chaud dans les t-shirts, dans les maillots. Et je lui dis, j'avais pas pensé à ça, mais pourquoi pas. Et on commence, et Matteoni s'est mis au piano, en commençant le refrain, et... On a fini la chanson, bon, on était tard dans la nuit, les paroles et la musique. Mais moi, je me disais, on avait quand même un peu avoiné ce soir-là. Et je me dis, bon, c'est
si
sympa.
Je ne m'abuse, c'était à la vodka, je crois, non?
Oui, à la vodka, exactement, à la vodka menthe, ouais. Avec des feuilles de menthe. Et je me dis, non, mais bon, on s'est bien amusé, on ne l'enregistrera jamais.
Moi, je suis au pastis ce soir, j'en ai bu 5 verres là, avec modération.
Et Eric me dit, non mais tu comprends rien, on va la faire avec un arrangement d'Electric Light Orchestra. Je ne savais même pas qui c'était. Il me dit, mais tu connais pas Jeff Lynne? Je dis non. Il me dit, mais t'es un inculte. Tu connais rien de la nouvelle pop musique? Non. Et ils sont partis en studio sans moi à se mettre à enregistrer ça. Moi, je voulais même pas aller au studio. Je disais, mais non, mais c'est un gag, cette chanson, on la sortira jamais. Mais... pourquoi ils sont allés enregistrer ça? Et un jour, Matteoni m'appelle et me dit, Didier, quand même, viens, c'est vexant pour Eric, tu t'intéresses pas à ce qu'on fait, et ça. Bon, je dis, écoute, je vais passer. Et mon Dieu, j'arrive au studio, on était en pré-mix, et j'entends cette merveille, parce que c'est une merveille d'arrangement et de réalisation, qui a été l'été sera chaud.
Eh ben, on va l'écouter.
Allez.
C'est parti. En entier, s'il te plaît, Benoît. Parce que c'est du lourd, l'été sera chaud.
Ah ouais.
Extraordinaire, c'est du Pink Floyd, le final. Voilà pourquoi il faut passer les morceaux en entier.
Ouais, avec cette coda improbable.
Ah, oui, la coda, c'est bien ça.
Improbable.
Et avec le Good Night, que les gens ne connaissent pas, parce qu'on n'écoute jamais la chanson en entier, c'est vrai.
Ben non.
Il y a Davina qui va te poser une question.
Il y avait une version qui faisait 6 minutes 40.
Oui, je sais, en iClub, il l'a passé. Davina voudrait te poser une question, Didier. Rapproche-toi bien du micro, Davina.
Alors Didier, c'était pas tellement vous poser une question, mais c'était surtout vous remercier pour ces moments magiques avec Elsa et Glenn Medeiros pour un roman d'amitié. Vous m'avez fait rêver pendant des années.
Oh, celle-là aussi, elle a une drôle d'histoire.
Ah bah, raconte-la-nous, monsieur Didier.
Oh, bah, je suis parti l'enregistrer à Los Angeles parce que Glenn Medeiros, qui était hawaïen, restait là-bas de l'autre côté du Pacifique. Et on est arrivé à l'époque avec Elsa, son papa, Georges Marie, qui était le producteur du disque. Ouais, c'était un truc dément parce qu'on est arrivé avec tout un matériel de vidéos et on a dit qu'on venait pour l'anniversaire d'Elsa, ce qui n'était pas faux. C'était son anniversaire pendant les séances d'enregistrement. Mais on avait emmené tout un matos pour faire le clip. Et on a tourné le clip dans les rues de Los Angeles, incognito, avec des policiers qui nous disaient « Mais qu'est-ce que vous faites ?» On dit « On filme la petite, c'est un souvenir pour son anniversaire. » Et on a monté tout un clip là-bas, et on avait ce truc de dingue, on enregistrait à côté de Whitney Houston dans le studio. C'est-à-dire qu'on se succédait avec le même producteur qui était Robbie Buchanan, et quand Whitney Houston avait fini ses prises d'enregistrement, c'était à nous. Et c'est comme ça que j'ai vu pendant des jours travailler Whitney Houston en studio en attendant sur la banquette du SAS. Et je la regardais travailler, je voyais comment on la faisait travailler, je me disais « mais c'est complètement dingo ». J'ai dit « mais moi si je faisais ça avec un artiste, on me mettrait en prison depuis longtemps ». Parce qu'elle enregistrait 4 phrases par jour avec le coach. 4 phrases par 4 phrases. Elle enregistrait ses chansons. Tellement il cherchait la perfection vocale, le détail absolu. Et moi, après, quand j'arrivais avec Elsa et Glenn Medeiros, ils se disaient « ah, c'est bien des Français qu'on a là, c'est pas possible ».
Vous écoutez le refrain, d'ailleurs.
Oh, c'est bien.
C'est tellement difficile de faire simple dans la chanson, Didier. C'est tellement difficile de frapper au cœur.
Ouais, et vous entendez ce que j'appelle un mixage à l'américaine,
ouais.
Que moi je déteste.
Yacht Music.
Ouais, la façon dont ils mixaient. Mais j'ai eu, ça m'a donné le privilège de travailler avec une fille que j'ai adorée qui s'appelle Diane Warren et qui a été un auteur après d'immenses succès aux États-Unis, qui me disait toujours « mais reste ici avec moi, ne repars pas, reste avec moi, on va écrire plein de chansons pour tout le monde ».«
Reste avec moi », t'as pas écrit une chanson qui s'appelle comme ça, ça m'étonnerait.
Non, mais moi j'avais du mal à m'acclimater à Los Angeles, j'aimais pas tellement Los Angeles.
Chaque morceau de phrase que tu dis, ça pourrait être une de tes chansons. « J'avais du mal à m'acclimater à Los Angeles », paf, ça pourrait être une chanson de Didier Barbelivien.
Ouais, ça aurait pu.
Ouais, ça aurait pu, ça peut être une chanson de Didier Barbelivien.
Vas-y, continue.
Ouais, j'avais du mal à m'acclimater à Los Angeles.
Je vais quand même.
La vérité, à l'époque, je supportais pas trop les États-Unis.
Pourtant, il faisait chaud, Didier. Et vous aimez beaucoup.
Ouais, mais c'était très. Il faisait chaud, mais on était que dans la clim des studios d'enregistrement. C'était vraiment très glacial comme atmosphère, franchement.
On peut écouter un chef-d'œuvre ou ça vous ennuie? Ouais, j'ai craqué. Non mais Didier, j'ai craqué. Non mais je suis désolé. Il y en a, c'est la coke. Il y en a, c'est l'héroïne. Il y en a, c'est le crack. Moi, c'est Elle m'oublie. Alors j'ai craqué.
Ah, Elle m'oublie. Qu'est-ce que j'aime.
Vous savez, les amis, que Didier Barbelivien, qui est avec nous en ligne, je le rappelle à nos éditeurs et éditrices qui nous rejoignent, Didier a écrit cette chanson à 20 ans. N'est-ce pas, Didier? À 20 ans.
Un peu plus.
Oui, 24, 22. 24.
Non, elle a été enregistrée quand j'en avais 22. C'est une histoire vraie, hélas.
Qui t'est arrivée à toi ou qui est arrivée à Johnny?
Non, qui m'est arrivée à moi, c'était une rupture sentimentale, parce que j'avais fait le malin dans une chanson 2 ans avant, une chanson de Christophe qui s'appelait Petite fille du soleil,
oui,
où la chanson finit en disant « oublie-moi ». Et il ne faut jamais dire ça à une femme, parce qu'elle le fait. Donc, ça m'est arrivé, quoi.
Moi, même quand je leur dis pas, elles le font, moi. Même quand je leur demande de faire le contraire, elles le font.
Oui.
Pas besoin.
Alors après, c'est vrai que ça peut donner de jolies chansons, mais à l'époque, j'étais au 36e dessous. Hein,
oui, tu aurais préféré ne pas avoir à écrire la chanson.
À choisir, à l'époque, bien sûr que oui. D'ailleurs, je l'avais perdue, cette chanson. Ça a été une histoire invraisemblable. L'enregistrement d'Elle m'oublie. J'avais paumé le...
Le texte ?
J'arrive pas.
T'avais perdu la fille plus la chanson.
C'est Eddie Vartan qui s'est occupé de la production et qui m'a dit « c'est une chanson formidable ». Moi, c'était une balade. Enfin, jouer et chanter par moi, ça n'avait rien à voir, évidemment, avec Johnny Hallyday. Hein.
En tout cas, c'est une chanson extraordinaire. Benoît est là ou pas ? Tu veux qu'on se débarrasse de la pub tout de suite ? Alors, on se débarrasse de ça, Didier, comme ça, on te reprend.
sur Europe 1. Vous aussi, venez vous confier à Yann Moix en appelant le 3921. 50 centimes la minute.
Alors, nous sommes toujours sur la libre antenne. Je sais que mon ami Fred Assaya, qui d'ailleurs hier, pour la bamboula qu'on a faite ici dans les studios, est allé directement, ça va plaire à Didier Barbelivien qui est en ligne avec nous, il est allé directement rue François 1er. Et il s'est aperçu que c'était pas là. Donc, il a fait tout le trajet à pied. Il nous a rejoint deux rues
des Cévennes, dans le 15e. Mais Europe 1, c'est François 1er, on est d'accord, non?
Dans ma tête, ça a longtemps été rue François 1er, oui, je reconnais.
Mais on est toujours, en fait, rue François 1er, d'une certaine manière.
Exactement, on y est encore.
On y est encore. C'est vrai, Didier, ce lieu est culte?
Pour moi, c'est tellement de souvenirs, tellement de personnes. L'Athénien, en bas, le petit bar qu'il y avait en bas d'Europe. C'est là. Enfin, c'était le lieu de rencontre incontournable dans les années 60, 70, 80, 90.
D'ailleurs, il y avait un autre très grand parolier qui s'appelait Pierre Delanoë qui dirigeait la station à un moment donné.
À un moment, il était directeur des programmes. Ouais, c'était ça. Notre papa à tous, hein, Pierre.
Il paraît qu'il avait torché en quelques minutes, c'est un beau roman, c'est une belle histoire, que Fugain est allé le voir. Il est allé prendre un bout de crayon, un bout de papier, un crayon dans son bureau et il lui a tendu. Et c'est un beau roman. En quelques minutes.
Ouais, Pierre, il écrivait à la vitesse du vent. Hein. Tu sais, moi, j'ai eu l'occasion d'écrire avec lui, puis d'être ami.
C'était avec sur quelle chanson?
Oh là là, on en a écrit des chansons ensemble.
Vous travaillez pas du tout de la même façon, lui et toi?
Non, mais on aimait justement. Moi, c'était à la fois un homme de l'ancienne génération pour moi, mais c'était un exemple absolu. C'était le parolier mythique. Hein. Pierre Delanoë, on n'a jamais fait au-dessus, hein, les enfants. C'est invraisemblable ce que Pierre a écrit. Hein.
Ouais, il est quand même fort.
Moi, on me dit souvent, vous avez fait ci, vous avez fait ça, mais à côté de Pierre Delanoë, je suis un nain, hein, absolu.
Oui, enfin, faut pas exagérer non plus. On a le droit d'avoir des maîtres sans être pour autant un nain.
Non, mais je veux dire, tous les gens de la profession, de ma génération, mais même d'avant. Enfin, les mecs qui ne connaissent pas les chansons de Delanoë, c'est impossible. C'est...
Didier...
Il a fait 40 ans de chansons, quoi.
Didier, il est 23h59. On va être obligé de rendre l'antenne.
Nous
aussi, vraiment, c'est un beau cadeau que tu nous as fait, Didier.
Quel bonheur.
Vraiment, tu es un grand monsieur, même si tu n'aimes pas qu'on le dise, mais moi je le dis à ta place, j'en ai rien à faire. Et un ami, et en amitié, tu es quelqu'un aussi d'extraordinaire, je tiens à le dire à tous nos auditeurs. Merci mon vieux Didier.
Je peux vous souhaiter le meilleur est toujours plus que le meilleur.
Merci,
merci mille
fois. Didier Barbelivien, merci mille fois. Il est minuit sur Europe 1.